Mathieu Zagrowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de cours à Sciences Po Paris, chercheur dans le domaine de la police et de la sécurité. Et vous êtes auteur d'un ouvrage, « Que fait la police ?» aux éditions de l'Aube, sous-titré « Le rôle du policier dans la société ». Alors justement, est-ce qu'il existe un rôle ou des rôles aux policiers dans la société ?
Y a en fait plusieurs modèles. On distingue deux modèles de policiers, hein, deux types de policiers, deux figures du policier dans la société. Il y a la figure dite traditionnelle ou professionnelle, où en fait le rôle du policier est centré autour des missions habituelles de la police, que sont la patrouille, l'interpellation, l'investigation. Vous avez un autre modèle, qu'on appelle tantôt le modèle de proximité ou le modèle proactif, où en plus de ces fonctions-là, le policier exerce des fonctions qui concernent également la prévention, l'anticipation des problèmes, le contact avec la population. Où en gros, il s'agit d'élargir la palette des instruments utilisés par le policier. Hein, pour résumer, on va au-delà de ce cœur traditionnel de la mission policière. Donc, ces deux modèles, ils s'affrontent, le mot est un petit peu fort, mais il y a un mouvement de va-et-vient entre les deux depuis maintenant environ un siècle. Le modèle professionnel de police, il est inventé au début du XXe siècle, parce que, aux États-Unis en l'occurrence, dans un contexte de corruption endémique et de manque de professionnalisme. Et vous avez à cette époque-là un certain nombre de décideurs politiques et surtout policiers qui réfléchissent aux moyens en fait de lutter contre cette corruption et de faire de la police un corps professionnel et compétent, ce qui fait que on met en place des normes de discipline, on met en place des normes de formation et de recrutement à travers un concours, à travers la création d'académies de police. Et surtout, on fait du policier un acteur bureaucratique d'une certaine façon. Je n'emploie pas ça dans le sens péjoratif du terme, mais bureaucratique au sens de la science politique, c'est-à-dire que c'est un technicien, c'est un fonctionnaire qui est là pour appliquer des lois et des procédures de manière neutre et impersonnelle, ce qui est en fait une garantie d'équité pour la population. Ce modèle-là, il génère un certain nombre de problèmes. On l'observe en France, on l'observe aux États-Unis. Il se généralise, on va dire, entre les années 20 et les années 50. Et donc, il génère un certain nombre de problèmes qui sont bien connus. En l'occurrence, on va dire, la rupture du lien entre police et population. Les années 60 aux États-Unis sont marquées par un certain nombre d'émeutes urbaines, notamment dans les ghettos afro-américains. Et on se dit que la police fait partie du problème. Et c'est là qu'est inventé ce modèle un petit peu alternatif, qui est le modèle proactif, le modèle de la proximité, où justement on essaie de recréer du lien avec la population en faisant de la patrouille pédestre, en faisant des opérations de prévention, en organisant des réunions de quartier avec les habitants pour recueillir leurs attentes, et en créant des partenariats entre la police et d'autres acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc ça peut être les écoles, ça peut être la compagnie de transport, ça peut être la voirie, ça peut être les associations de commerçants, bref, en fonction du profil sociologique et économique du quartier. Si on prend là j'ai surtout parlé du cas américain, si on prend le cas français, dans le cas français, ce qu'on voit, c'est que traditionnellement, la police, les forces de police et de gendarmerie travaillent autour de deux axes principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la police de souveraineté, qui consiste en fait à protéger les institutions contre les coups d'État, contre l'espionnage, aussi contre les manifestations et les insurrections, comme mai 68 par exemple. Et donc de l'autre côté, lutter contre le grand banditisme. Donc c'est enfin le grand banditisme ou on va dire le banditisme lié à certains mouvements politiques. Je pense notamment à Action Directe. Et c'est au milieu des années 90 qu'on se rend compte que la police dite de sécurité publique, donc la sécurité quotidienne, hein, la police du quotidien des citoyens, est complètement délaissée. Alors je dis au milieu des années 90, la prise de conscience commence en réalité dans les années 70 et 80 avec deux rapports, enfin un rapport rédigé par M. Perfit, qui était le ministre de la Justice en 77, et l'autre par Gilbert Bonnemaison, qui était le maire d'Épinay, hein, donc qui a présidé une commission des maires sur la sécurité. Donc c'est un rapport qui date de 82. Et ce sont en fait les prémices de la réflexion sur la sécurité publique en France. Cette réflexion, elle aboutit, je disais, au milieu des années 90, premièrement à l'affirmation dans la loi de 1995, la loi d'orientation et de programmation de la sécurité de 95, sous Charles Pasqua, donc à laquelle on dit que il est nécessaire d'instaurer une police de proximité qui soit au service du citoyen, de la sécurité quotidienne des Français. Elle dit également qu'il faut entrer dans une logique dite de coproduction. En substance, la police est plus le seul acteur pertinent. Plus seul acteur, n'a plus le monopole en fait de la question de la sécurité. Il faut nouer des partenariats avec d'autres acteurs. Et on va dire l'aboutissement de ce mouvement, bah, c'est sous la gauche plurielle avec la police de proximité.
Alors justement, cette police de proximité, est-ce qu'elle a bouleversé la police? Est-ce qu'elle a duré? Est-ce qu'elle a été viable?
La police de proximité a été présentée comme une révolution. Alors, pour citer Jean-Pierre Chevènement, il avait parlé de révolution culturelle à l'époque, ce qui n'était pas faux, parce que la police de proximité allait à l'encontre de beaucoup, on va dire, d'habitudes et de modes de fonctionnement de la police française, qui est extrêmement centralisée. On reviendra peut-être là-dessus un petit peu plus tard dans l'entretien. La police de proximité, elle consistait à justement un petit peu décentraliser la police, à donner plus d'autonomie aux agents de terrain, à créer des postes de police de quartier et à impliquer la population dans les politiques de sécurité à travers des échanges mutuels et fréquents entre policiers et citoyens. Ce qui, voilà, va quand même à l'encontre d'une certaine culture professionnelle policière, et pas uniquement en France d'ailleurs. Hein, c'est pas, je veux dire, la France n'a pas le monopole. Dans ce domaine-là, où qu'on aille, enfin dans beaucoup beaucoup de pays, ça vaut également pour les États-Unis, la culture professionnelle policière est surtout centrée autour justement des fonctions répressives. Hein, les policiers ont plutôt une représentation de leur métier comme étant voilà, arrêter les délinquants et patrouiller dans la rue. Donc cette politique, elle n'a pas duré. Et elle a été, on va dire, frappée de plusieurs problèmes, de plusieurs handicaps. En fait, la police de proximité a été mise en œuvre un peu trop vite. Les premiers projets de réforme datent donc de 97. Hein, c'est lors d'un colloque à Villepinte voilà, qui est lancé ce chantier de la police de proximité par Lionel Jospin et qui est accompagné au cours de ce colloque qui rassemble un peu tous les acteurs de la sécurité en France. Donc il est entouré de Jean-Pierre Chevènement, d'Elisabeth Guigou, de Claude Bartolone, qui est le ministre de la Ville. Mais la mise en œuvre, en fait, commence en 99. Et c'est en 99 que la police de proximité est mise en œuvre dans 5 sites pilotes. Le souci, c'est que les élections municipales de 2001 approchant, puis la présidentielle de 2002. Ajoutons à cela le fait que les chiffres de la délinquance ne sont pas bons en 2000 et en 2001. On accélère en fait la mise en œuvre. On ne prend pas le temps de regarder ce qui s'est fait dans les sites pilotes et d'avoir véritablement un retour sur expérience. Et on se dit, eh ben, on généralise à tout le pays à marche forcée. Ce qui fait qu'entre. Enfin, en juin 2001, si mes souvenirs sont bons, la police de proximité est généralisée dans tout le pays. Ce qui veut dire qu'en 2 ans, on a mis en œuvre une réforme qui concerne quelque chose comme 80 000 fonctionnaires de police. On voit bien la hâte, on voit bien à quel point c'est une mise en œuvre qui s'est faite à marche forcée. En 2002, Nicolas Sarkozy est élu. Pardon, il n'est pas élu. Enfin, Jacques Chirac est réélu président de la République et Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur. Et logiquement, comme la droite a gagné en 2002 justement sur la sécurité, que la police de proximité est perçue comme un échec justement au regard des chiffres, Nicolas Sarkozy décide de tout remettre en cause, de tourner la page de la police de proximité et de recentrer en fait le travail policier autour de ses missions fondamentales en quelque sorte d'investigation, d'interpellation et de patrouille. Ce qui, si on revient au modèle que j'ai décrit à l'instant, et un retour au modèle professionnel de police.
Alors justement, c'est l'époque où on met en place des systèmes de mesure de l'efficacité de la police.
Ouais.
Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'une police?
Ouais, c'est une bonne question. Déjà, les instruments de mesure, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils datent pas de 2002 ou 2003. Ils datent pas forcément comment dire, remontent pas forcément à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Évidemment, Nicolas Sarkozy en a fait une grande publicité et on va dire, amener ce système d'évaluation à un tout autre niveau. Cependant, déjà dans la police de proximité, vous avez une dimension évaluative du travail de la police. En gros, les policiers devaient se fixer un certain nombre d'objectifs locaux. Ces objectifs étaient suivis, voilà, avec un tableau de bord, avec un tableau de bord local, alors qui incluait pas seulement des statistiques, il y avait d'autres dimensions qui étaient prises en compte, mais toutefois l'insistance sur voilà l'évaluation, y compris la quantification du travail policier, elle est déjà présente. Maintenant, sur votre question, est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de la police? Je serais tenté de vous faire une réponse mi-figue, mi-raisin qui reviendrait à répondre oui et non à la fois. Oui, on a un certain nombre d'instruments de mesure qui permettent de dire si la délinquance augmente ou non, et si les gens se sentent en sécurité ou non, et si les gens sont satisfaits du travail de la police ou non. Et j'insiste bien sur ce fait, c'est que les chiffres de la délinquance ne doivent pas être le seul instrument de mesure. Dire que le taux d'élucidation augmente ou baisse, ou encore que tels faits ont augmenté ou ont baissé, n'a pas forcément de signification pour la population. Ça ne reflète pas forcément très exactement ce que les gens ressentent. Vous avez certains indicateurs, je ne sais pas moi, si par exemple vous avez une augmentation à la fois de l'élucidation et du nombre d'interpellations pour détention de stupéfiants, ce sont des chiffres qui vont être bons pour la police. Mais est-ce que la population va forcément ressentir ça comme une amélioration tangible de sa sécurité? Ça reste à démontrer. De même, puisqu'on parle de ces histoires de taux d'élucidation, je vais vous donner un exemple qui est toujours relatif à ces histoires de trafic de stupéfiants. Vous contrôlez dans la rue, vous faites un contrôle d'identité sur quelqu'un, vous le palpez. Et vous découvrez sur cette personne, voilà, un peu de résine de cannabis, vous avez élucidé un fait. Vous avez élucidé ce fait en quelques secondes, voilà, c'est ce qu'on appelle les infractions qui sont révélées sur action des services. Et bon, ça ne demande pas un travail extrêmement important pour les policiers. D'un autre côté, vous passez quelques semaines, voire quelques mois, à surveiller un trafiquant de drogue notoire. Voilà, vous le placez sur écoute, vous faites un certain nombre de filatures, vous montez un dossier assez solide pour l'interpeller. Ça va prendre beaucoup de temps, mais vous aurez toujours qu'un seul fait élucidé, un fait de trafic de drogue. Dans un cas, vous avez un fait isolé qui a finalement peu de signification pour la sécurité quotidienne des gens. Dans l'autre, vous avez peut-être durablement modifié la vie d'un quartier. Donc, pour résumer un petit peu, les chiffres de la délinquance sont un outil utile, évidemment, pour un petit peu regarder l'activité des services de police, mais cet outil, il doit être complété par des sondages auprès de la population, où on leur demanderait s'ils sont satisfaits du travail de la police et s'ils se sentent en sécurité ou non. Mais là encore, ce sont des outils, hein, et ça c'est là où je fais ma réponse de Normand et je tempère un peu et je vous dis que non, on ne peut pas véritablement non plus évaluer parfaitement l'action d'une police. Ces outils-là sont forcément imprécis et parce que voilà, le ressenti de la population peut énormément varier d'un lieu à l'autre et on n'est pas sur quelque chose de très très objectif.
Alors, on a un peu l'impression qu'il y a une balance qui se fait entre la prévention et la répression. Est-ce qu'il y a un juste équilibre à avoir qui permet une meilleure police en quelque sorte?
Oui, bien sûr. On en revient encore une fois à cette dichotomie entre le modèle professionnel, qu'on appelle également modèle réactif. En gros, le modèle professionnel, ça consiste pour la police à réagir à une infraction, soit en envoyant un véhicule d'urgence quand quelqu'un compose le 17, soit en déclenchant une investigation quand on n'a pas attrapé l'auteur d'une infraction en flagrant délit. Le modèle proactif, quant à lui, il a été théorisé par, par plusieurs auteurs dont je parle dans l'ouvrage. Je pense notamment à Hermann Goldstein, qui est l'inventeur de la police par résolution de problèmes. Et lui, il estime que le souci des appareils de police, c'est, en général, les appareils de police un peu traditionnels, c'est de se focaliser sur des indicateurs, sur des modes d'évaluation qui sont issus du code pénal, où en gros, plus l'infraction, comment dire, plus une infraction est grave au regard du code pénal, plus c'est une affaire intéressante pour la police. Pour Goldstein, il faut sortir de ce mode de réflexion où en fait un bon policier, c'est un policier qui va faire une interpellation sur une grosse affaire. Pour lui, en fait, un bon policier, c'est quelqu'un qui va être capable d'élaborer une stratégie de prévention de la délinquance. Cette stratégie, il y en a de toutes sortes. Alors, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Celui dont je parle principalement dans l'ouvrage, c'est la prévention situationnelle. La prévention situationnelle, c'est cette idée selon laquelle une infraction, elle n'est pas seulement due à un auteur. Évidemment, il faut quelqu'un pour commettre une infraction, elle est aussi due à un lieu. Et l'agencement des lieux, en fait, peut favoriser la délinquance. En gros, une maison qui n'est pas protégée par un certain nombre d'obstacles physiques facilite la commission d'un cambriolage. Hein, c'est quelque chose là aussi qui a été théorisé par la recherche américaine à partir des années 60-70, donc à une époque où vous avez une augmentation pardon, exponentielle des infractions contre les biens aux États-Unis, hein, dans un contexte d'augmentation, enfin de développement de la société de consommation. Et eux, en gros, ils ont dit ça. Ils ont dit. Donc, c'est Felson et Cohen, hein, deux sociologues américains, qui ont écrit ça. Ils disent qu'il ne faut pas se focaliser sur les personnes, sur les délinquants, il faut se focaliser sur les lieux. C'est ça qui est intéressant. Et le rôle du policier, pour en revenir à Goldstein, il est là. C'est que le policier, c'est quelqu'un qui doit, en partenariat avec d'autres acteurs locaux, élaborer ce type de stratégie de prévention situationnelle. Exemple, vous avez une série de cambriolages dans un quartier ou plus spécifiquement dans un immeuble. Le rôle du policier, c'est pas tellement d'essayer d'attraper le cambrioleur en flagrant délit, ce qui est extrêmement peu probable. C'est statistiquement peu vraisemblable qu'un policier se trouve pile au bon endroit au moment où un cambriolage est commis. Son rôle, ça va plutôt être d'aller voir les propriétaires ou le syndic et de dire, voilà, ensemble, on va voir comment on peut réagencer les lieux pour en faire des lieux sûrs. Donc, est-ce qu'on met un digicode? Est-ce qu'on met un interphone? Qu'est-ce qu'on met comme type de protection? Voilà, c'est une sorte de référent qui va contribuer à améliorer la sécurité d'un lieu et plus globalement d'un quartier. Donc oui, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver entre prévention et répression. Et cet équilibre-là, je ne pense pas qu'il ait forcément été trouvé en France.
Alors justement, toujours dans la logique d'une police efficace, est-ce que augmenter les effectifs est une solution?
Très bonne question. Je vais vous citer deux exemples, une recherche et un fait. 1972, à Kansas City, donc toujours aux États-Unis, on mène une expérience qui consiste à tester l'efficacité de la patrouille de police. On divise la ville en trois grands périmètres. Dans un périmètre, on ne change rien, les policiers patrouillent normalement en voiture et répondent aux appels d'urgence. Dans un second périmètre, on sature les rues de voitures de police. Alors vraiment, on met le maximum de véhicules de police possible. Dans un troisième secteur, les policiers ne sortent jamais du commissariat, à moins qu'ils ne soient appelés sur une intervention d'urgence. En gros, ils font comme les pompiers, hein, ils restent à la caserne. Quand un incendie se déclare, bon bah là on sort. Le résultat, au bout de quelques mois, c'est qu'en fait, ça ne change strictement rien. Dans les trois périmètres, on n'observe pas de modification du taux de criminalité, du nombre de crimes et délits. Il n'y a pas non plus d'incidence sur le sentiment d'insécurité, encore moins sur l'image de la police. Donc l'idée selon laquelle, en augmentant le nombre de patrouilles, on fait baisser la délinquance, met à mal ce, voilà, ce, comment dire, est mise à mal par cette expérience. Un fait maintenant, c'est que entre grosso modo le milieu des années 60 et le début des années 90, vous avez une augmentation régulière et extrêmement significative à la fois des effectifs et des moyens financiers des polices aux États-Unis, et vous avez une augmentation parallèle tout aussi significative de la délinquance. On passe comme ça de mémoire, au début des années 70, on doit être à quelque chose comme 450 crimes violents pour 100 000 habitants. Au début des années 90, on doit être à 700 et quelques. Donc ça montre bien que cette logique qui est uniquement axée sur les moyens et les effectifs n'est aucunement opérante dans la réduction, pardon, de la criminalité. Hein, on voit que certains, voilà, que tous les candidats à la présidentielle actuelle ne l'ont pas forcément compris.
Alors justement, puisqu'on parle de la campagne, la question de la sécurité a été vraiment un enjeu majeur lors des deux dernières élections présidentielles. Est-ce que ça va être le cas cette année ou est-ce que c'est un peu en retrait lié au contexte économique?
Oui, c'est effectivement en retrait. Si on prend, c'était il y a une quinzaine de jours, il y a eu un sondage TNS Sofres sur le sujet. On voit que la sécurité n'arrive qu'en 7e ou 8e position des préoccupations des Français à la veille de la présidentielle. Loin derrière toutes les questions, évidemment, toutes les questions économiques et sociales.
Ça ne présume pas du fait que les gens se sentent particulièrement plus en sécurité.
Non, c'est qu'on a un contexte économique ben, qui est celui de la crise de la dette et de la montée du chômage. Bon, je suis pas la personne la plus compétente pour parler pour parler de ça, mais les Français ont aujourd'hui des problèmes, des préoccupations plus prioritaires, plus importantes que la sécurité. Ça ne veut pas dire que les Français se sentent nécessairement en sécurité. Ça veut plutôt dire qu'ils pensent à autre chose aujourd'hui.
Alors justement, vous avez évoqué à un moment dans cet entretien l'aspect territorial de l'action de la police. C'est quelque chose qui est assez présent dans votre livre, notamment au terme de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui, bien sûr. Je pense, hein, parce que je faisais allusion aux différents candidats à la présidentielle, et bon, je pense évidemment aux deux principaux que sont Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je vois en fait un aspect positif, à la fois un aspect positif et un aspect négatif dans leur programme et dans leur politique respective. Je vais commencer par le négatif, c'est que effectivement on reste quand même grandement sur cette idée de un peu arithmétique de on augmente les moyens donc on va faire baisser la délinquance. Du côté de François Hollande, c'est l'idée de mettre 1 000 fonctionnaires de plus par an. Si on ramène ça par département, ça fait 10 policiers de plus par département par an. C'est quand même pas. Alors évidemment, ce sera pas déployé comme ça. Hein, ils vont le. Si il est élu et met en œuvre cette promesse, on sait bien que parmi ces 1 000, voilà, ils iront principalement dans les zones. Enfin, du moins, je l'espère, dans les zones sensibles. Mais toujours est-il qu'on est un peu dans cette vision arithmétique de la sécurité qui, à mon avis, est encore une fois inopérante. Du côté de la droite, c'est l'idée que plus on va augmenter les peines, les sanctions, agrandir l'arsenal répressif, là aussi on va faire baisser la délinquance. Bon, là il y a une focalisation, on le voit dans le programme de l'UMP, notamment sur la délinquance des mineurs. Je trouve pas que ce soit des approches très 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 productives parce que on se focalise sur les effectifs, sur les moyens, sur l'arsenal législatif, mais pas vraiment sur ce que font concrètement les policiers. L'aspect positif, en revanche, on le voit. Donc, à droite, on l'a vu avec donc les unités territoriales de quartier devenues BST, donc brigade spéciale de terrain. Même si j'ai certaines réserves sur ces brigades, mais toujours est-il qu'on est parti du principe qu'on peut pas faire la même politique de sécurité partout, qu'il faut cibler un certain nombre de zones prioritaires. Hein, là aussi, c'est une statistique que je donne à un moment qui est issue de recherche nord-américaine. Vous avez quelque chose comme 50% des délits qui sont commis à 3% des adresses. La délinquance, c'est généralement quelque chose de très très concentré. Donc voilà, moi je trouve bien, je trouve intéressant qu'on ne soit plus dans cette idée de on va démultiplier les effectifs, mais on se demande où est-ce qu'on les met, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il n'y a pas des lieux où ils seraient plus utiles qu'ailleurs? Surtout dans le contexte budgétaire qui est le nôtre. On ne peut pas démultiplier les effectifs de manière inconsidérée. À gauche, dans le programme de François Hollande, l'idée de zone de sécurité prioritaire, s'inscrit un petit peu dans cette logique, où là aussi, on a une, comme c'est une centaine de territoires qui vont être identifiés à travers le pays, et c'est là qu'on met en fait gros des moyens policiers. Je pense que c'est une bonne, je pense que c'est une bonne approche, c'est une bonne idée.
Et alors justement, toujours dans cette approche territoriale, vous expliquez dans votre ouvrage que une des raisons aussi des problèmes du manque de rapport entre la population et la police, c'est la sélection qui fait que vous avez des provinciaux qui se retrouvent parachutés à des endroits qu'ils ne connaissent ni Ève ni d'Adam et un turnover assez important de la population. Est-ce qu'il y aurait des solutions à ça?
Oui, il existe des solutions. Bon, déjà un chiffre. Là aussi, bon, je répète, je redis quelque chose que j'ai écrit. Vous avez quelque chose comme 90% des postes à la sortie de l'école de police qui sont en Île-de-France, dont deux tiers environ à Paris, intramuros. Et vous avez quelque chose comme 90 ou 95% des élèves gardiens de la paix qui ne viennent pas de région parisienne, qui viennent généralement de villes petites et moyennes, et qui se retrouvent donc confrontés. Se trouvent donc confrontés à une réalité sociale qu'ils ne connaissent pas du tout, qui n'est pas la leur, et avec comme objectif de carrière, généralement, de retourner dans leur région d'origine. Donc il n'y a pas vraiment d'inscription dans la durée de leur travail en région parisienne, et généralement ça vaut pour toutes les zones, ça vaut pour toutes les zones sensibles. Quelle solution à ça? En soi, le fait qu'une personne issue d'une petite ville de province vienne travailler à Paris dans un contexte inconnu n'est pas tant un problème que ça. Parce que bon, vous avez une phase d'apprentissage, passer quelques mois, on va dire, ou 2 ans de présence sur un terrain, vous commencez quand même à connaître votre travail, à connaître les gens avec qui vous travaillez et auprès desquels vous travaillez. Donc le. L'enjeu pour moi n'est pas tant le recrutement local que la fidélisation sur un territoire. Une proposition qu'on pourrait formuler, que j'ai lue voilà, ici et là, y compris dans les documents de think tank concurrent du vôtre, ce serait d'instaurer un recrutement régionalisé, où en gros vous avez un certain nombre de postes qui sont ouverts dans chaque région. Et une fois, voilà, vous avez, même si vous habitez en Lorraine, vous pouvez passer le concours de Paris. Mais une fois que vous avez passé le concours de Paris, vous faites toute votre carrière en région parisienne. Ça pourrait être une solution, voilà, pour avoir des effectifs durablement fidélisés sur un territoire.
Alors, dernière question, on entend beaucoup parler de l'émergence de nouvelles formes de délinquance. Est-ce que ça implique une nouvelle police?
Bon, je pense que vous faites allusion à tout ce qu'on un peu ce qu'on observe à Marseille, par exemple, sur des phénomènes voilà, un peu d'économie souterraine, d'économie parallèle qui deviennent tellement importants, enfin, comment dire, des systèmes d'économie souterraine qui deviennent tellement importants que qui contrôlent des quartiers entiers, des pans entiers de la ville. Est-ce si nouveau que ça? Je pense pas à l'économie parallèle, mais pas, je veux dire, trafic de stupéfiants et autres. C'est pas quelque chose qu'on a découvert récemment. Donc, est-ce que ça nécessite une nouvelle police? Non, ça nécessite un certain type de police, mais pas une nouvelle police. Ça nécessite une police d'investigation aguerrie et soutenue. Je pense, alors si on analyse un petit peu ce qui s'est passé ces 10 dernières années, on voit qu'au moment où Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'Intérieur, il y a en quelque sorte un mandat clair, ou plutôt un affichage, des objectifs qui sont clairs. Vous avez la lutte contre les incivilités, c'est tous les dispositifs législatifs sur la mendicité agressive, sur le racolage passif, sur l'occupation des halls d'immeubles. Et vous avez de l'autre côté la lutte contre l'économie souterraine à travers la création des GIR, donc les groupes d'investigation, d'intervention, pardon, régionaux, qui en fait rassemblent police, gendarmerie, douane, fisc, etc., pour faire en fait des enquêtes en profondeur sur ces réseaux d'économie parallèle. Je trouve que ça s'est un petit peu délité depuis. On s'est un petit peu trop focalisé justement sur des indicateurs statistiques Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'élucidation, sur le nombre d'interpellations. Et forcément, ces enquêtes de longue haleine, compliquées, où à la fin, vous ne faites pas forcément énormément
De chiffres.
d'investigations, voilà, vous ne faites pas énormément d'interpellations, ne se traduisent pas par des chiffres spectaculaires. Ça se traduit par un changement spectaculaire généralement dans la vie d'un quartier, mais pas par des chiffres spectaculaires. On a par exemple, si mes souvenirs sont bons, 2 fois moins d'interpellations pour trafic de drogue aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années, qu'à la fin des années 90. Et je pense que le problème, il est là. C'est que il faut arrêter d'utiliser comme ça des stratégies ou plutôt des non-stratégies au jour le jour. On se contente de faire des petites interpellations pour voilà, des détentions de stupes pour des petits faits sans importance. Démultiplier les contrôles d'identité, c'est pas, je veux dire, ce n'est pas forcément bénéfique à mon sens. Ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment se focaliser sur des investigations de longue haleine, en profondeur, qui prennent du temps, sont moins rémunératrices en termes de chiffres, mais qui sont, à mon avis, plus productives en matière de bienfaits sociaux pour les quartiers.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.